Chapitre 5. Arrivé au fond de la chapelle devant le brasier que Karl avait rallumé, Delphine, stupéfaite, se demanda si l'aventure dans laquelle elle se trouvait mêlée à l'improviste, si les sensations qu'elle éprouvait n'étaient pas un rêve. Mais il lui suffisait, pour se convaincre qu'elle était en face de la réalité, de jeter les yeux autour de soi, sur ces ruines au milieu desquelles elle était venue tant de fois en des temps plus calmes, et qui semblaient destinées à devenir maintenant le théâtre de quelque drame dans lequel un rôle lui était assuré. Elle se tenait à peine, accablée par la fatigue autant que par l'émotion. Depuis le matin, elle parcourait les bois. La dernière course qu'elle venait de faire à la recherche de son chemin l'avait en quelque sorte brisée. C'est grâce à une rare énergie qu'elle demeurait encore à cette place, dans l'attitude d'une femme résolue à défendre ce qu'elle aime. Mais le poids de son corps était trop lourd pour ses jambes qui tremblaient, et à toute minute elle oscillait, obligée de faire appel à toutes ses forces pour ne pas être renversée. Karl Savaro, malgré l'exaltation qui l'animait, la considérait avec attendrissement. Elle était si belle, et en même temps, sous le poids de son accablement, elle semblait si frêle qu'elle devait inspirer en ce moment une pitié égale à l'amour. Quel travail se vit en lui, nous ne saurions le dire, mais tout à coup, d'un mouvement rapide, il enleva le manteau qui couvrait ses épaules, le plia, en fit un coussin qu'il déposa sur la pierre où tout à l'heure il était assis, et s'adressant à Delphine, il lui dit d'une voix douce, qui constatait étrangement avec le ton qu'il avait précédemment affecté, « Prenez place ici. Il est impossible que vous restiez plus longtemps debout. » Elle le regarda avant de lui obéir. Mais comme elle vit qu'il était très ému, comme elle crut distinguer dans ses yeux l'expression vive d'un sentiment amical qui n'avait plus rien de blessant, elle obéit. Quand elle fut assise, elle le remercia et ajouta « Oh, si vous vouliez être toujours ainsi, je cesserai d'être malheureuse. Et si vous m'aimez comme vous le dites, vous ne sauriez me donner une plus grande preuve d'amour que de demeurer de la sorte docile et doux. Mais il ne tient qu'à vous que je sois telle que vous désiriez me voir, répondit-il. Elle se méprit au sens de ces paroles, dans lesquelles son honnêteté ne pouvait découvrir aucune allusion injurieuse. « Mais que faudrait-il donc, demanda-t-elle, pour vous décider à me ramener sur le champ au château de Morangis et pour vous faire renoncer à adresser à mon mari une provocation aussi folle que criminelle ?» À ces mots, le visage de Karl exprima de nouveau les sentiments qui avait effrayé déjà Delphine. On eût dit que toutes les fois qu'elle faisait allusion à son mari, Karl se laissait aussitôt dominer par la colère. Ce qu'il faudrait pour me rendre docile et doux, mais comment oserais-je vous le dire, alors que je vous vois uniquement préoccupé du bonheur et de la sûreté de votre mari, et nullement du mal que vous me faites. Dites plutôt que vous vous faites à vous-même, s'écria Delphine à qui tout son effroi revenait. Je vous ai adressé une question. Comment puis-je obtenir de vous d'être ramené à Morangis et que vous abandonniez des projets qui mettent la mort dans mon âme ? Karl Savaro ne répondit pas sur le champ. Il cherchait les termes dont il allait se servir pour exprimer toute sa pensée. Il regardait Delphine d'un œil où passaient tour à tour, comme des éclairs, les sentiments divers qui le possédaient. À l'heure où il se trouvait, se sentant maître de cette femme, libre de ses actions, le désir qui le dévorait, aiguisé par la présence de Delphine, dominait son cœur, sa tête et ses sens, et ce qu'il y avait de mauvais en lui commençait à tenir une place plus grande que ce qu'il y avait de bon. Vous ne me répondez pas, demanda Delphine, glacée par la persistance avec laquelle se fixait sur elle ce regard qui n'était plus celui du fiancé d'autrefois, mais celui d'un implacable ennemi exigeant et capricieux. Mais voici près de 4 ans, madame, que je suis amoureux de vous. Pendant longtemps, j'ai vécu avec la certitude que vous seriez ma femme, et cette pensée seule a soutenu mon courage dans les épreuves difficiles que j'étais condamné à subir. Et quand je vous ai retrouvée, vous étiez à un autre. Je n'examine pas si vous avez fait bien ou mal fait. Ce que je sais, c'est que je vous aime toujours, c'est que je meurs de cet amour et que seul vous pouvez m'empêcher d'en mourir. Vous me demandez maintenant un service. Je n'ai plus besoin de vous dire à quel prix vous pouvez l'obtenir. Ce fut dit d'un accent nerveux, tremblant, un accent de criminel. Delphine comprit. Le rouge de la colère et de la honte monta à son front. Elle se leva, et avec une fierté dédaigneuse qui exprimait toutes les pudeurs de la femme révoltée, elle dit « Vous prenez plaisir à me démontrer que je ne serai resté avec vous 1 minute de plus. J'espère que je parviendrai à retrouver seule ma route. En tout cas, je veux m'en aller. » En parlant ainsi, elle fit quelques pas pour sortir. Mais Karl se plaça devant elle, et les bras croisés sur sa poitrine, il s'écria « Vous en allez, et vous croyez que j'y consentirai ? Ne m'est-il pas bien prouvé que vous vous moquez de moi ? Votre mari devrait être ici depuis 1 demi-heure, il n'y est pas, mais vous, vous y êtes. Qu'est-ce que cela prouve ? Si donc c'est vous qui avez reçu la lettre que je lui adressais, et que vous êtes venu vers moi afin d'obtenir que je renonce à ma vengeance ? Y renoncer, mais savez-vous que pour une femme qui ne veut rien accorder, vous demandez beaucoup ? Maintenant que vous avez vu de quel prix je vous ai payé, vous désirez vous retirer uniquement préoccupé du salut de votre mari. Vous m'avez bravé. Vous avez surpris mes secrets, vous voulez partir, mais est-ce que tout cela est possible ? Sa voix, gonflée par l'ironie et la colère, s'élevait peu à peu. Son imagination se surexcitait. Et le moment arriva où il n'allait plus être maître de soi. Tout à coup, il se redressa plus encore, et avec un geste qui révélait une implacable résolution et qui laissait peu d'espoir de le fléchir, il ajouta « Bon, je ne sais pas quel plan vous avez formé en venant ici, mais depuis que vous y êtes, j'en ai aussi formé un, moi, et ils se réaliseront. » Delphine se rejeta brusquement en arrière. « Rassurez-vous, dit-il en voyant son épouvante, je ne veux rien obtenir de vous par la violence. Ce que je souhaite, c'est par les supplications que j'y prétends arriver. Je vous demande, pour la dernière fois, une parole d'espérance, la promesse que vous consentirez à m'écouter, que vous ne me fuirez plus, que je deviendrai l'un des amis de votre maison. » Et que si un jour votre cœur vous parle de moi, vous l'écouterez. Je sollicite cette promesse parce que je sais que l'ayant faite, vous la tiendrez. Et c'est bien pour cela que je ne la ferai pas, s'écria impétueusement Delphine. Vous n'avez qu'un parti à prendre, je vous l'ai dit, celui de vous éloigner, de cesser de me voir, jusqu'au jour où cette malheureuse passion aura disparu de votre cœur et n'y pourra plus rentrer. Comprenez donc bien que j'aime mon mari et que rien au monde ne pourra me détacher de lui ou m'entraîner même 1 minute, par crainte ni par force, dans l'oubli de mes devoirs ou de mon amour. » La courageuse femme fit cette déclaration avec une fierté que développait le sentiment du péril. Elle croyait en ce moment sa vie menacée, et elle le crut plus encore, quand elle vit Karl mettre la main dans la poche de sa redingote et en retirer un revolver. Vous êtes sans pitié, dit-il, et je me vengerai. Oh, il ne tiendrait qu'à moi de vous arracher ici par la mort, à l'homme que je hais, parce que vous l'aimez. Mais je vais vous imposer un châtiment plus cruel. Je vais mourir à vos pieds en vous laissant un remords éternel, car ce sont vos rigueurs qui me tuent. Delphine avait tout prévu, excepté cette étrange et dramatique solution. Et de toutes celles qu'elle pouvait rêver, nulle ne lui semblait plus horrible. Elle se précipita donc sur Karl pour arrêter le mouvement par lequel ce malheureux allait se détruire. Son élan fut si rapide qu'elle put arracher l'arme de ses mains. Mais elle se trouva de la sorte et dans l'ardeur de cette lutte pressée contre lui. Au contact de son corps délicat, frêle et charmant, Karl sentit les flammes brûlantes monter à son cerveau, et sous l'empire de violents désirs, ses bras étreignirent la taille souple de Delphine. Elle n'en pouvait plus. Déjà brisée par la fatigue, les émotions qu'elle subissait dans ce moment l'affaiblissaient plus encore. Pour empêcher Karl de mourir, elle venait de faire un suprême et dernier effort. Mais son énergie était à bout. Et lorsqu'elle sentit les bras de son ancien fiancé si follement passionné et se croiser sur elle, le sentiment de son impuissance fut tel qu'elle se crut à sa merci et déshonorée. Ses yeux se fermèrent, sa tête se pencha lourdement sur la poitrine de Karl, et elle demeura là, sans connaissance. Pour lui, c'est en la regardant qu'il s'aperçut qu'elle venait de s'évanouir. Plein d'angoisse, éperdu, inhabile à lui donner des soins, il jeta un regard autour de soi, cherchant une place où il put coucher ce pauvre corps, immobile comme un cadavre. Tout à coup, un nouveau personnage entra dans la chapelle et s'arrêta brusquement devant le spectacle qui s'ouvrait à ses yeux. Karl, dans son trouble et trompé par l'obscurité, le prit pour le marquis de Morangis. « Monsieur, lui dit-il, accourez au secours de votre femme. Elle vient d'affirmer ici son honnêteté et son amour pour vous. J'ai voulu, me trouvant seul avec elle, lui imposer le mien. » Elle m'a résisté et vient de s'évanouir entre mes bras. » Le nouveau venu s'approcha. Karl vit alors que c'était un prêtre. « Je ne suis pas le mari de cette femme, monsieur, dit ce dernier. Je suis son beau-frère. On me nomme l'abbé de Morangis. » Avant d'ajouter un seul mot aux paroles par lesquelles il venait de se faire reconnaître, l'abbé de Morangis s'élança vers Karl, avec l'aide duquel Delphine fut étendue devant le feu. L'abbé se pencha vers elle et lui en fait un oreiller avec le manteau de Savaron. Il l'examina attentivement. « Bon, il n'y a aucun danger, dit-il en se relevant. Dans quelques instants, elle reprendra ses sens. Quant à vous, monsieur, continua-t-il en s'adressant à Karl, dont l'attitude prouvait plus d'exaltation que de repentir, vous ne pouvez plus rien. Je crois que ce que vous avez de mieux à faire, c'est de vous retirer. Mais enfin, me dira-t-on, s'écria Karl, comment il se fait que j'ai vu ici ce que je n'attendais pas et que celui que j'attendais n'y soit pas venu? Mais la raison en est simple, répondit l'abbé. « Voici votre lettre, c'est moi qui l'ai reçue. Remerciez-en le ciel, monsieur. Cette circonstance vous épargne un crime et vous explique ma présence ici. » En lisant cette provocation insensée, que le hasard, que dis-je, le hasard, la main de Dieu même n'a livré, j'ai résolu de venir au rendez-vous pour que vous assigniez à mon frère et dont j'ai eu soin de ne pas lui en parler. C'est peut-être à votre tour de m'expliquer comment cette femme se trouve auprès de vous. Lui avez-vous écrit aussi, et prétendiez-vous la rendre témoin de ce qui se serait passé entre vous et son mari ?
Je ne suis pas un lâche, répliqua vivement Karl. J'étais arrivé le premier, et j'attendais le marquis de Morangis, quand la marquise est apparue. Ce n'est pas elle que j'espérais voir, je vous le jure. La terreur sans fondement qui s'est emparée d'elle, quand elle m'a reconnu, me prouve qu'elle non plus ne croyait pas me rencontrer. Je me souviens du récit qu'elle m'a fait. Elle s'était égarée dans la forêt, surprise par la nuit, et ne retrouvait pas sa route. L'abbé l'interrompit en disant « Cela suffit. Les explications que nous pourrions échanger n'ajoutera rien à la situation. Vous n'avez plus, je vous le répète, qu'à vous éloigner. Je vous prierai seulement, puisque vous avez un cheval, de vous rendre au couvent d'Arches, à 2 kilomètres d'ici, afin qu'on m'envoie des hommes pour transporter ma belle-sœur. Puis vous passerez au château de Morangis pour annoncer que je suis auprès d'elle et qu'elle est hors de danger. Mais à qui parlerai-je ? Demanda Karl. Il lui répugnait maintenant de se trouver en présence du marquis de Morangis. L'abbé le comprit avant qu'il se fût autrement expliqué. « Mais vous avez raison, dit-il, je vais vous remettre un billet. Vous n'aurez qu'à le faire passer à mon frère sans vous montrer à lui. » En parlant ainsi, il prit dans l'une des poches de sa soutane un portefeuille et traça à la hâte quelques lignes sur 2 papiers destinés, l'un à son ami le prieur du couvent d'Arches, qu'il avait quitté quelques instants auparavant, l'autre à rassurer Édouard, dont il devinait les angoisses. Il les remit à Karl en ajoutant ces seuls mots. « Partez, monsieur, et pressez-vous !» Honteux, pâle, défiguré par ses violentes émotions, le malheureux jeune homme s'éloigna après avoir jeté un dernier regard sur Delphine, étendue et toujours immobile, et bientôt l'abbé entendit les pas de son cheval se perdre dans la forêt. L'entretien qui précède avait eu lieu en moins de temps que nous n'en avons mis à le raconter. Resté seul, l'abbé vint s'asseoir auprès de Delphine. On l'aurait crue morte si les battements de son cœur n'eussent prouvé que la vie n'avait pas quitté ce corps inanimé et qu'elle était seulement suspendue. Parvenant à ce rendez-vous, l'abbé de Morangis ne pensait guère y trouver Delphine évanouie. Il n'avait donc rien apporté de ce qui est nécessaire pour donner des soins en pareil cas. Réduit à attendre qu'elle reprît ses sens naturellement, et l'arrivée des secours qu'il avait demandé au couvent, il demeura à la même place, essayant de comprendre par quelle étrange aventure Delphine s'était rencontrée avec Karl. Il ne pouvait pas la croire coupable. C'est lui-même qui avait reçu la lettre de ce dernier. Les termes mêmes dans lesquels Karl Savaron s'adressait au marquis de Morangis prouvait l'innocence de Delphine. Les paroles prononcées par lui au moment où l'abbé s'était présenté devant ses yeux, surpris, affirmaient cette innocence de nouveau et avec plus d'éclat encore. « Non, se disait le prêtre, elle n'a pas failli à ses devoirs. Elle a su résister pour l'honneur de l'homme qu'elle aime à présent, à celui qu'elle aimait autrefois, et qu'elle tenait pour mort. Mais alors, quelle cause l'a conduite en ces lieux ? Cette question portait le trouble dans son cœur. On a pu voir par les pages précédentes qu'il était resté longtemps avant d'avoir foi dans l'honnêteté de celle qui était devenue sa sœur. Il s'était défié d'elle. Il avait maudit sa beauté le jour même où elle entrait pour la première fois dans le château de Morangis, seule, pauvre, abandonnée, et offrant en quelque sorte volontairement sa grâce et sa misère à la faiblesse du marquis. Depuis, le bonheur de son frère avait effacé dans le cœur de l'abbé ses impressions premières. Après 2 ans, il avait consenti à reconnaître pour sa sœur cette femme étrangère entrée par surprise dans la noble maison de Morangis. Mais en ce moment, il regrettait presque d'avoir eu si rapidement confiance, et le mystère dont cette aventure était enveloppée l'irritait au point de le rendre soupçonneux et injuste. Il se demandait si Delphine était encore aussi innocente qu'il l'avait supposée jusque-là, et si sa présence en ces lieux n'était pas la preuve de sa faute. Il en était là de ses cruelles réflexions quand Delphine fit un mouvement. Comme il veillait attentivement sur elle, il s'en aperçut, la souleva doucement entre ses bras. Elle ne tarda pas à ouvrir les yeux. Ses regards flottèrent quelques instants de droite à gauche, indécis, égarés, comme s'il eût eu quelque peine à recouvrer la mémoire. Puis ils s'arrêtèrent sur la baie. Une rougeur subite colora le visage de Delphine. « Vous ici ? » murmura-t-elle. « Oui, répondit doucement l'abbé, faisant taire ses doutes. « Oui, mon enfant, oui, je vous ai trouvé dans un bien triste état. » Et comme il vit qu'elle cherchait autour d'elle, il ajouta. « La personne qui était auprès de vous vient de se retirer. » Un soupir de soulagement s'échappa de la poitrine de Delphine. Et ses nerfs, subitement détendus, subirent une réaction telle qu'un torrent de pleurs coula de ses yeux. L'abbé la considérait anxieux et se demandait avec angoisse si c'était des larmes de regret ou des larmes de repentir. Quand elle se fut calmée, elle lui dit « Je ne vous interroge pas sur les circonstances qui vous ont conduit auprès de moi. » Je sais que vous vous y êtes trouvé pour m'éviter un péril et je vous en remercie. J'ai seulement une grâce à vous demander.
Laquelle parler?
Il faut que mon mari ignore que je n'étais pas seul quand vous êtes arrivé.
Ces paroles, que le lecteur s'expliquera si bien, produisirent sur la baie une impression douloureuse. Comme si elles eussent été équivalentes à un aveu. Il est donc vrai qu'elle a quelque reproche à s'adresser, quelque faute à dissimuler, pensait-il. Comme cette réflexion se formulait dans son esprit, et qu'il allait peut-être l'exprimer avec la dureté qui lui était naturelle quand on excitait ses soupçons, un grand bruit se fit entendre au dehors. Au même instant, un homme se précipita dans la chapelle en criant d'un accent désespéré « Delphine ! Delphine !» L'abbé n'eut que le temps de se relever. Delphine de l'imiter. Il n'avait pas encore répondu que déjà le marquis de Morangis était aux pieds de sa femme qu'il couvrait de pleurs et de baisers. « Mais comment cela s'est-il fait ? » demandait-il. Il interrogeait tour à tour son frère et Delphine. Alors l'abbé regarda celle-ci, et après lui avoir adressé un reproche muet pour le mensonge qu'il allait commettre pour elle, il répondit « Eh bien, j'ai trouvé cette pauvre femme évanouie au milieu de la forêt. Il faut bénir Dieu qui a conduit ma promenade de ce côté. » On s'empressa autour de Delphine. Les premiers soins lui furent immédiatement donnés. Et bien que très faible, très pâle, très émue, elle se trouva bientôt en état de monter en voiture. Autour d'elle, à la lueur des lanternes, dont, pour se mettre à sa recherche, son mari et ses amis avaient dû se munir, elle ne voyait que des visages sympathiques et alarmés, anxieusement fixé sur elle. Se retournant vers son mari, qui souriait à travers les larmes que l'émotion lui arrachait encore, elle lui dit « Oh, j'ai hâte
de rentrer au château et d'embrasser Claire et Philippe. Quelques minutes auparavant, Édouard, lui, avait appris qu'en ne la voyant pas revenir, les deux enfants s'étaient abandonnés à un accès de désespoir. Puis elle s'appuya d'un côté sur le bras de son mari, de l'autre sur le bras de l'abbé, et elle fut conduite ainsi vers les voitures qui attendaient à la porte de la chapelle. Mais avant de sortir, Édouard fit un signe au valet de pied qui le suivait, et par son ordre, ce dernier ramassa le manteau sur lequel Delphine avait été étendue et qui devait servir encore à la couvrir dans la voiture. Ce manteau, on s'en souvient, c'était celui de Karl Savaron, qu'il avait oublié là dans la précipitation de son départ. Il semblait que ce ne fût qu'un incident vulgaire, et c'est par cet incident, cependant, qu'Édouard devait apprendre la vérité. Au moment où l'on allait se mettre en route pour regagner le château, les hommes que l'abbé avait fait mander au couvent par Karl arrivèrent, suivis du prieur et de deux moines, pressés d'accourir en apprenant l'accident dont une personne de la famille du marquis avait failli devenir victime. On échangea quelques paroles. Le marquis remercia lui-même les religieux pour l'empressement avec lequel ils avaient répondu à l'appel de son frère. « Puisque les bons pères ont bien voulu venir, dit tout à coup l'abbé, vous ne retournerez pas ce soir au couvent. Ma présence peut être utile au château. » Delphine entendit ces mots et d'un signe elle remercia son beau-frère. Mais au même moment, le prieur s'approcha de l'abbé et lui dit à demi-voix « Quel est donc le mystérieux messager par lequel vous m'avez fait prévenir ?»« À peine arrivé, après m'avoir remis votre billet, il est tombé comme une masse inerte, nous l'avons cru mort. Pendant 5 minutes, il a été sans connaissance, et en reprenant ses sens, il m'a déclaré que bien que vous l'eussiez chargé de porter une lettre au château de Morangis, il était impossible de faire un pas de plus, et qui me priait de lui accorder l'hospitalité pour la nuit. « Alors il est au monastère ?» interrompit vivement l'abbé. « Oui, je l'ai fait mettre à l'infirmerie. »« Je vais avec vous !» s'écria l'abbé. Il voulait profiter de l'occasion qui lui était offerte et qu'il n'avait pas espéré pour avoir avec Karl un entretien qui le fixerait sur le point de savoir si Delphine était innocente ou coupable. S'adressant à son frère, il lui dit « Oh ben décidément, c'est de la prière de monsieur le prieur qui me supplie de ne quitter le couvent que demain après l'office où je dois prêcher. J'arriverai au château dans la matinée. J'ai l'assurance qu'on n'aura pas besoin de moi plus tôt. » On se sépara donc, et tandis que l'abbé s'éloignait avec les moines dans la direction du monastère, le rapide galop de chevaux vigoureux entraînait le marquis, la marquise et leurs amis à Morangis. Il était environ 10 heures quand ils arrivèrent. Tout le monde était sur pied, les attendant avec une impatience plus facile à comprendre qu'à décrire. Philippe et Claire, surtout, avec l'impatience fébrile de leur âge et l'exagération de leurs pensées, étaient excités à un degré inquiétant. Ils avaient pleuré, croyant, comme ils le disaient, leur chère maman perdue, peut-être morte au fond d'un fossé. Nul bonheur ne peut se comparer à celui qu'ils éprouvèrent en la voyant revenir, et il ne fallut rien moins que la violente fatigue qu'elle éprouvait pour qu'elle s'y décidasse à ne pas l'étouffer sous leurs caresses. Delphine, après avoir donné l'assurance que rien ne lui était nécessaire, sinon une boisson réconfortante et un repos immédiat, rentra chez elle avec ses femmes de chambre pour se mettre au lit. C'est alors seulement que le marquis et ses amis s'aperçurent qu'ils avaient oublié le dîner. Le couvert les attendait dans la vaste salle à manger. On prit immédiatement place, et bien que tous les mets fussent trop cuits, On les mangea en grand appétit et en grande joie. La veillée se prolongea même assez tard. Édouard, qui avait interrogé sa femme durant le trajet, et à qui elle avait répondu de manière à confirmer le généreux mensonge de l'abbé, racontait à ses convives comment, au détour d'une allée, alors qu'elle cheminait un peu en arrière du groupe de ses compagnons, son cheval s'était emporté si rapidement dans une autre direction qu'elle n'avait eu ni le temps d'être vue ni la pensée d'appeler au secours, et qu'entraînée ainsi très loin, ne sachant où elle se trouvait, et son cheval, dans l'ardeur de sa course folle, s'étant abattu, elle avait été jetée à terre, évanouie. Et c'est là que, par un miraculeux hasard, l'abbé, faisant seul sa promenade quotidienne, l'avait trouvée, toujours immobile, n'ayant d'autre compagnie que le cheval qui, après un si terrible accident causé par lui, broutait avec tranquillité l'herbe autour d'elle. Chacun tremblait à ce récit, et quelque invraisemblable qu'il pût être par certains côtés, nul ne songeait à y contredire. Il était déjà fort tard quand on songea au repos. Successivement, les invités du marquis regagnèrent leur appartement. Philippe et Claire étaient remontés déjà chez eux. Lorsque le marquis fut seul, il se prépara à suivre cet exemple. Mais avant d'entrer dans sa chambre, il passa par celle de sa femme. Delphine était endormie. La vieille gouvernante du château, qui veillait auprès d'elle, assura que le lendemain, il ne resterait nulle trace du malheur. Édouard se décida alors à aller se coucher. Mais en mettant le pied dans sa chambre, il aperçut sur un fauteuil où lui-même, en arrivant, il l'avait jeté, le manteau sur lequel Delphine était étendue dans l'abbaye d'Arches. Une réflexion lui vint tout à coup à l'esprit. C'est que ce vêtement ne lui appartenait pas, mais qu'il devait être la propriété de l'abbé. Il regretta même de ne lui avoir pas rendu, en pensant que le trajet des ruines au couvent était assez long pour que son frère eût le temps de souffrir du froid. En même temps, il prenait le manteau pour le placer en un autre endroit, quand d'une poche entrebâillée, un papier roula sur le tapis. Édouard s'empressa de ramasser. Ce n'était rien qu'une carte de visite. Machinalement, sans être même poussé par la curiosité, puisqu'il croyait tenir un objet appartenant à son frère, il y porta les yeux et ne put retenir un moment de surprise. Il regarda mieux, croyant s'être trompé, mais il ne se trompait pas. Il se sentit devenir très pâle et trembler. Sur cette carte était écrit le nom de Karl Savaron. Cette découverte jeta le marquis de Mangis dans une consternation véritable mêlée d'irritation et de douleur. Son imagination surexcitée se plaisait à lui présenter sa femme, dont jusqu'à ce jour il n'avait jamais douté, comme coupable du plus grand des crimes, celui de l'avoir trompé. Il comprenait maintenant ce qui jusqu'à ce moment lui avait paru mystérieux dans le rapide séjour de Karl Savaron au château de Morangis. Il s'expliquait aussi le motif pour lequel Delphine, feignant de s'égarer dans la forêt d'Arches, était restée en arrière de ses amis et les avait laissés rentrer seuls à Morangis, au risque de leur causer de mortelles inquiétudes. Elle voulait trouver le temps et la liberté d'un tête-à-tête avec son amant, se disait Édouard. Ce qu'il comprenait moins, par exemple, c'est que Delphine se fût évanouie. L'abbé de Morangis affirmait l'avoir trouvé sans connaissance. Édouard ne voulait pas douter de sa parole, alors même qu'il pressentait un mystère. Alors n'était-ce qu'une comédie jouée par Delphine, afin de donner le change sur sa conduite véritable? Était-ce au contraire la vérité? Y avait-il eu entre elle et Karl quelques scènes violentes qui justifiaient son évanouissement? Telles étaient les questions que se posait le malheureux Édouard. Sa confiance en Delphine avait été très longue à se dissiper. La défiance, au contraire, s'augmentait avec rapidité. Mille faits se présentaient maintenant à son souvenir, dont il n'avait tenu nul compte au moment où il s'était produit, et lui apparaissaient comme les preuves certaines d'une faute dont il ne connaissait à aucun degré les circonstances et de l'existence de laquelle il était cependant convaincu. Cela se passait la nuit. Il était seul dans sa chambre. Ses domestiques s'étaient retirés. Ses invités, un peu brisés par la fatigue et les émotions du jour, étaient rentrés dans leurs appartements. Delphine dormait dans le sien, aussi bien que Philippe et Claire. Seul le marquis veillait, face à face avec sa douleur dont l'intensité grandissait de minute en minute, sans qu'il eût cependant recueilli un seul témoignage qui lui confirmât son malheur, sinon cette carte de visite qui ne prouvait pas vraiment la culpabilité de Delphine. Il pleurait et blasphémait tour à tour. Quand il se rappelait l'origine de la marquise de Morangis, quand il songeait à la misère de laquelle il l'avait tirée pour lui faire une situation incomparable, et quand ensuite il constatait la noire ingratitude qu'elle venait de révéler envers lui, tout son corps frémissait sous le poids de l'indignation, et s'il se fût écouté, il se serait précipité sur le champ vers l'appartement de Delphine afin de la punir et de venger d'un seul coup les horribles tortures par lesquelles il passait. Il se contint cependant. Il songea aux invités qui remplissaient son château et auxquels il ne voulait pas donner le spectacle de la honte qui venait d'envahir la maison. Il maudissait leur présence. Il formait des vœux afin qu'ils s'éloignassent au plus tôt. Mais il était résolu à leur cacher sa peine et à leur laisser ignorer l'incident qui en était la cause. Il songeait aussi à ses enfants. Il connaissait la tendresse profonde qu'il portait à Delphine, et il redoutait de jeter dans ses âmes affectueuses et pures l'ombre d'un soupçon contre celle que lui-même leur avait apprise à respecter. Et puis enfin, il était retenu par un sentiment lâche autant qu'humain, qui faisait qu'en maudissant celle qui le rendait malheureux, il ne pouvait pas cesser de l'aimer, et qu'alors même qu'il était convaincu de son indignité, il voulait en douter encore. Il éprouvait contre elle une rage intense et sourde, sans se sentir la force d'affronter sa présence et de lui adresser les reproches qu'elle méritait. Mais que faire alors? Cette question se posait dans sa pensée, avec des alternatives redoutables, et sans qu'il fût capable de lui donner une solution. Ne rien dire, ne rien faire, dissimuler soigneusement son chagrin et sa blessure, en mourir au besoin sans en parler, oui, c'était peut-être le parti le plus digne. Mais lorsqu'il serait en présence de Delphine, lui serait-il possible de contenir ses légitimes sentiments, et n'y avait-il pas à redouter qu'il cédât alors aux fureurs déchaînées en lui? Et puis comment admettre que le marquis de Morangis, héritier d'une maison où l'honneur des femmes est légendaire autant que la valeur des hommes, laissa impunément faire injure à son blason et ne tira pas vengeance de ce Karl Savaron, cru mort si longtemps et ressuscité pour le malheur d'Édouard et de Delphine? Tout en pensant à ces choses, Édouard s'était jeté sur son lit. Le sommeil le surprit au moment où ses graves préoccupations engendraient la fièvre dans son cerveau malade. Le matin le réveilla et le trouva livré aux mêmes angoisses et aux mêmes perplexités. Néanmoins, il était plus calme, et alors il comprit qu'avant de se faire sur l'événement qui le rendait si malheureux une opinion définitive, il fallait interroger habilement Delphine et s'efforcer de savoir d'elle comment il s'était accompli. Ce parti définitivement arrêté dans sa pensée, il se prépara à l'exécuter. Il s'arma de courage, il détermina dans sa pensée les termes des questions qu'il adresserait à Delphine, et il se préparait avec le même soin qu'un juge qui doit interroger un prévenu. Et tout à coup il se dit « Mais si de cet interrogatoire la culpabilité allait ressortir nette, formelle, prouvée, sans que le doute demeurât possible. » Alors il se laissa aller dans un fauteuil. De ses mains, il se couvrit le visage, et les sanglots longtemps contenus s'échappèrent de sa poitrine. À ce moment, la porte de sa chambre s'ouvrit, et l'abbé de Morangis entra. En le voyant, Édouard se leva, courut à sa rencontre, et comme l'abbé, à l'aspect de son visage, pâle, défait, s'était arrêté les bras ouverts, il s'y précipita en criant « mon frère, je suis bien malheureux !»« Malheureux ?» demanda vivement l'abbé. « Est-ce que l'état de votre femme s'est aggravé ?» Édouard secoua la tête et dit « Oh, je ne sais si cela ne vaudrait pas mieux. Non, non, ce n'est pas sa santé qui m'inspire des inquiétudes. C'est notre bonheur. Voyez plutôt. » En parlant ainsi, il s'était dégagé de l'étreinte fraternelle et soulevant le manteau aux causes de toutes ses douleurs, il montrait à l'abbé la carte de Karl Savaron. L'abbé demeura quelques secondes sans comprendre. Il se frappa soudain le front et demanda « Ce manteau, où l'avez-vous trouvé ?»« Dans les ruines, » répondit Édouard. « Il servait de couche à Delphine quand j'y suis arrivé. » « Oh, et sur cet indice, vous l'avez cru coupable. C'est là, je pense, la cause de votre douleur. » Édouard fit un signe affirmatif. « De rendre grâce à Dieu, » répondit vivement l'abbé, « votre femme est toujours digne de vous. »« Quoi, vous savez ?»« Oui, je passais la nuit au couvent d'Arches, et plusieurs heures auprès de ce jeune homme. » Dans l'état, la suite des émotions qu'il a subies depuis plusieurs jours inspire les plus vives craintes. Je lui ai arraché, lambeau par lambeau, son secret. Son âme est livrée à une passion ardente, autant coupable pour votre femme. Il l'a retrouvée à Paris et lorsqu'elle a voulu rentrer à Morangis, c'était pour le fuir. Oui, je me souviens, murmura Édouard. Ah, elle ne voulut pas me dire le motif auquel elle obéissait. Je comprends maintenant. Elle se montrait fidèle à ses devoirs. Ce jeune homme l'a poursuivie jusqu'ici. Elle s'efforça vainement de l'éloigner. Et lorsqu'enfin elle y parvint, elle fut effrayée des menaces qu'il proféra. Mais que ne m'avouait-elle la vérité ? S'écria Édouard. « Oh, elle fit sagement de se taire, » reprit l'abbé. « Vous avouez la vérité. C'eût été infailliblement armer votre bras contre Karl Savaron et armer le sien contre vous. Delphine préféra donc attendre. Et les choses en étaient là quand hier, s'étant égarée dans la forêt, elle s'est rencontrée avec lui. Il lui a tendu un piège. » L'a attiré dans les ruines de l'abbaye. Et si votre femme n'avait pas été la plus pure, la plus dévouée, la plus courageuse, la plus aimante des épouses. Vous auriez maintenant, oui, le droit de gémir et de pleurer, mais elle a été ce qu'elle doit être. C'est moi qui vous l'affirme, non point comme votre frère, mais comme prêtre du Dieu vivant. » L'abbé n'avait pas encore terminé sa phrase qu'Édouard de Morangis, transporté de joie, s'élançait hors de sa chambre en courant, arrivait jusqu'à l'appartement de Delphine, y entrait comme un fou et se jetait aux pieds de sa femme dont il couvrait les mains de baisers et de larmes. Émue, surprise, Delphine s'abandonnait aux caresses de son mari. Tout à coup, à deux ou trois mots qu'il prononça, le souvenir des jours précédents revint dans sa mémoire. Elle se rappela les craintes subies par elle lorsque Karl Savaron, osant venir la poursuivre jusque dans le château de Morangis, s'y était rencontré avec le marquis. À ce moment, elle avait déjà deviné les soupçons de son mari. Elle s'en souvint très nettement, et rapprochant l'attitude qu'il affectait alors de celle qu'il gardait maintenant, et qui révélait tant de confiance et d'amour, voire un sentiment de repentir, elle comprit tout ce qui venait de se passer, et dit, non sans mélancolie, « Édouard, cher Édouard, vous aviez douté de moi ?» Mais je voulais te le cacher, murmura-t-il tristement. Mais puisque tu as découvert la vérité, oui, j'avoue, j'ai été assez fou pour croire que tu ne m'aimais plus et que tu aimais l'autre. Et comment ce soupçon vous était-il venu? À cette question, Édouard prit place à côté de sa femme et n'hésita plus à raconter ce que le lecteur connaît déjà. Delphine écouta très attentivement ce récit, et quand il fut terminé, elle dit « Ainsi, c'est votre frère qui s'est porté vis-à-vis de vous, garant de mon innocence ?» Édouard se méprit à cette question et crut y voir un reproche. N'en mérite-t-il pas un, en effet, pour avoir douté de Delphine ? Mais elle était trop heureuse pour songer à lui garder rancune. Surprise par l'abbé aux ruines d'Arches, évanouie entre les bras de Karl Savaron, elle avait bien compris, revenue à elle, que les apparences n'étaient pas en sa faveur et qu'il lui serait difficile, sinon impossible, de prouver qu'elle ne se trouvait pas volontairement en cet endroit. Maintenant, l'assurance donnée par l'abbé de Morangis lui démontrait qu'il ne doutait plus d'elle et que son mari était également convaincu de son innocence. C'était donc la tranquillité de sa vie à jamais assurée. On rendait à son courage la justice qu'il méritait. À son tour, elle voulut raconter à Édouard comment les choses s'étaient accomplies. Elle lui en fit le récit fidèle, d'autant plus fidèle qu'elle n'avait rien à dissimuler puisque tout dans cette affaire était à son honneur. Il n'y avait jamais eu d'orage sur notre bonheur. Depuis que nous sommes mariés, lui dit Édouard quand elle eut terminé, celui-ci a été le premier. Il sera le dernier, je l'affirme. Il m'a appris que tu vaux plus encore que je ne croyais et que, comme l'a dit si bien mon frère, tu es vraiment la plus pure, la plus courageuse, la plus aimante des épouses. Et moi, j'ajoute, la plus aimée. » Il a dit cela ? S'écria Delphine, que faisait rougir de plaisir cet hommage d'un homme qui, si longtemps, avait été pour elle comme un ennemi. « Oui, il l'a dit. Et il n'a dit que la vérité. » Une semaine après les événements racontés dans ces pages, le château de Morangis avait repris sa physionomie accoutumée. L'abbé l'habitait comme par le passé et continuait les études de Philippe avec un soin égal à celui qu'apportait Delphine dans l'éducation de Claire. Rien ne manquait au bonheur d'Édouard. Il suffisait qu'il eût été un instant compromis pour qu'il en appréciât mieux le prix. De longues années de repos et de sérénité s'offraient en perspective à ses espérances, et les plans qu'il formait en vue de l'avenir avaient pour objectif unique les êtres qui lui étaient chers. Quant à Delphine, sa tendresse pour son mari s'était accrue au milieu de ses douloureuses aventures. Elle ne poursuivait d'autre but que de s'attacher à prouver qu'elle était digne de porter le nom de Morangis et capable de lui donner une auréole nouvelle de beauté, d'esprit et de vertu. Karl Savaron resta plusieurs semaines au couvent d'Arches et, par suite des violentes impressions qu'il avait ressenties, malade au point d'être à plusieurs reprises entre la vie et la mort. Les soins énergiques et dévoués dont il fut l'objet de la part des moines le sauvèrent. Mais, une fois rétabli, il éprouva un découragement si profond. Il constata si bien, en comprenant que Delphine était irrémédiablement perdue pour lui, le vide de son cœur, il eut tant de peine à se rattacher à l'existence, qu'il se retourna comme un désespéré vers les idées religieuses auxquelles le ramenait sans cesse le spectacle dont il était témoin chaque jour. Peu s'en fallut qu'il embrassât la vie monacale. Il se serait arrêté à ce parti sur le champ, sans le refus que le prieur opposa à ses désirs, en objectant qu'il n'avait pas la vocation. Et comme Karl insistait, il lui fut répondu: éloignez-vous pendant 2 années, retournez à Paris, à vos affaires, à vos plaisirs. Voyagez et cherchez à vous distraire, et si dans 2 ans vos sentiments ne sont pas modifiés, les portes de cette maison s'ouvriront devant vous. C'est ainsi qu'un matin, le cœur rempli d'aspirations vagues, indéfinies, où l'amour inspiré par Delphine se confondait dans les ardeurs nées de l'idée de Dieu, Karl Savaron quitta tristement le couvent d'Arches en disant au père: au revoir. Il ne revint pas. Avant l'expiration du délai qui lui avait été fixé, il épousait à Naples la fille d'un banquier, correspondant de sa propre maison, laquelle, sous sa direction, retrouvait la même prospérité qu'au temps de feu Jacques Savaron. « Et quoi » demandera-t-on. « Voilà donc ce qui survivait dans des passions si violentes ? Se peut-il que l'homme soit si changeant ? Oui, sans doute. Mais n'est-ce pas heureux ? En mettant impitoyablement le pied sur des sentiments exaltés auxquels il ne pouvait donner une pâture en les condamnant à l'oubli, Karl agissait en disciple de la saine raison. » C'était le commencement de la sagesse.